C'est une nouvelle étape du bras de fer en Turquie. Un juge a ordonné ce dimanche l'incarcération du maire d'Istanbul. On en parlait dans le journal. Ekrem İmamoğlu, principal rival du président Erdogan, arrêté mercredi, ce qui a déclenché d'énormes manifestations à travers le pays. Bonjour Max Valentin Robert.
Bonjour.
Docteur en sciences politiques, spécialiste de la Turquie, merci d'être avec nous. Ekrem İmamoğlu, donc envoyé en prison, on pouvait s'y attendre, hein, c'est devenu vraiment la bête noire du président Erdogan ces dernières années.
Oui, devenu la bête noire du président Erdogan, d'autant plus qu'il avait gagné les élections municipales à Istanbul en 2019 avec une forte avancée. Et d'ailleurs, pour rappel, à l'époque, Erdogan n'avait pas concédé sa défaite tout de suite, et donc l'élection municipale avait dû être réitérée. Suite à ce nouveau scrutin, la victoire d'İmamoğlu s'était confirmée durant cette élection municipale. Puis par ailleurs, lorsqu'a été organisée les tout dernières municipales en Turquie de l'année dernière, İmamoğlu avait été réélu, et réélu assez confortablement face à son rival présenté par le candidat du parti présidentiel. Donc effectivement, depuis plusieurs années, İmamoğlu constituait une bête noire pour Erdogan, notamment en raison de sa popularité également dans les enquêtes d'opinion, et aussi parce que la caractéristique d'İmamoğlu, c'est qu'il peut parler à différents segments de l'opposition turque, ce qui n'est pas le cas nécessairement de l'autre figure du CHP qui pourrait également incarner l'opposition, Mansour Yavaş, le maire d'Ankara.
Cette procédure judiciaire, une nouvelle, hein, puisqu'il croule déjà sous les procédures judiciaires, est-ce que ça signe pour vous la fin, une menace en tout cas pour son avenir politique, ou est-ce qu'au contraire ça pourrait renforcer l'opposition et son aura en quelque sorte ?
Alors il est clair que les conditions actuelles handicape très sérieusement sa survie politique. Pour rappel, l'université d'Istanbul a récemment retiré son diplôme universitaire.
Et c'est une nécessité par la Constitution pour être candidat à la présidentielle.
Voilà, c'est ça. Pour être candidat à la présidentielle, à l'élection présidentielle en Turquie, il faut être titulaire d'un diplôme universitaire. Or, l'université d'Istanbul a annulé son diplôme récemment. Maintenant, il est poursuivi pour des allégations de corruption. Et là où on peut encore faire montre d'un certain pessimisme par rapport à l'avenir politique d'İmamoğlu, c'est que depuis plusieurs années en Turquie, il y a des opposants qui sont incarcérés. On pense aux anciens leaders du Parti démocratique des peuples, Figen Yüksekdag et Selahattin Demirtas. Plus récemment, le dirigeant nationaliste Ümit Özdağ a également été mis en prison. Donc, autant d'éléments qui nous incitent à un certain pessimisme quant à l'avenir politique d'Ekrem İmamoğlu. Là où je nuancerais néanmoins, c'est que on voit aujourd'hui une participation massive aux primaires présidentielles organisées par le CHP.
On en parlait dans le journal.
Y compris dans des fiefs habituels de l'AKP. Et même si, d'un point de vue légal et politique, l'avenir présidentielle d'İmamoğlu est fortement remise en cause, une participation massive à ces primaires pourrait constituer un outil de légitimation pour le parti d'opposition.
Une primaire qui a été ouverte à tous les citoyens et pas seulement aux adhérents du CHP. L'arrestation du maire d'Istanbul, on l'a vu, a provoqué une vague de contestation, des manifestations monstres, vague de colère inédite, hein, sauf si je me trompe, depuis plus de 10 ans maintenant en Turquie, et qui dépasse la base des militants du CHP. Est-ce que ça peut durer selon vous ?
Je pense que ça peut durer, surtout qu'on est dans un climat économique et social bien plus délétère qu'il y a quelques années. On fait souvent la comparaison avec le mouvement de Gezi. Il y a une différence
2013.
Fondamentale entre... Oui, voilà. Il y a une différence fondamentale entre le mouvement de Gezi aujourd'hui, c'est que, entre-temps, la situation économique s'est fortement dégradée, notamment pour les jeunes. Et ce qu'on constate aussi, c'est que, contrairement à Gezi, ce mouvement de protestation semble avoir une base sociale plus large. C'est-à-dire que Gezi réunissait essentiellement des protestataires dans les milieux urbains et dans les milieux étudiants, alors que dans les protestations actuelles semblent réunir une base sociologique plus large. Par exemple, il y a eu des mobilisations d'agriculteurs à Konya qui pourtant est connu pour être un fief de l'AKP et de la droite religieuse plus généralement depuis les années 70, ce qui pose question sur sur le fait que ce mouvement s'essoufflerait. Il y a effectivement un climat économique et social et qui alimente cette protestation, et cette protestation semble réunir des segments assez divers de la population.
Et en face, les autorités affichent leur fermeté. Comment est-ce que vous interprétez ce raidissement du pouvoir, et comment cela s'inscrit aussi dans une perspective géopolitique avec le retour de Trump à Washington, l'Europe qui est préoccupée par sa sécurité, la chute de Bachar el-Assad en Syrie, etc.
Alors il est clair que le tournant, la volonté d'Erdogan d'entrer dans un type d'autoritarisme désormais de plein fait, c'est une conséquence d'un climat qui a été rendu possible par l'élection de Trump, par le retour de Trump à la Maison Blanche. Mm-hmm. Désormais, les États-Unis sont moins enclins à se préoccuper de l'état de la démocratisation, de l'état de la démocratie dans le monde. On peut notamment mettre en parallèle l'indifférence des États-Unis par rapport à ce qui se passe en Turquie avec leur indifférence par rapport à ce qui se manifeste actuellement au niveau du conflit russo-ukrainien. Mm-hmm. Et on peut même aller plus loin. Par exemple, Elon Musk a censuré plusieurs comptes X proches de l'opposition turque et couvrant les manifestations en Turquie. Ce qui fait qu'on peut même aller jusqu'à dire que non seulement le retour de Trump pour responsabilité a favorisé une fenêtre d'opportunité pour les velléités autoritaires d'Erdogan, mais côté américain, il y a également un quasi-soutien à ce raidissement autoritaire.
Et donc le pouvoir a les mains libres.
L'équipe Trump-Musk.
Merci beaucoup à vous, Max Valentin Robert, docteur en sciences politiques, spécialiste de la Turquie. Merci pour votre analyse, et on suivra bien sûr ce bras de fer en Turquie.